Très bien. L'été, il y a quelques pas si longtemps que ça, ma femme, Brigitte, n'arrivait pas à dormir une nuit où il faisait très chaud. Et le lendemain, elle m'a raconté qu'elle a pris une chaise, elle s'est assise dans notre petit carré de jardin qui fait 30 mètres carrés, et elle s'est mise à regarder les étoiles. Et elle m'a raconté comment effectivement, voilà, juste assise comme ça au milieu du jardin, eh bien, ce spectacle-là c'était merveilleux. Et face à un spectacle, quand on lève la tête au ciel, il y a deux attitudes possibles. Soit on se dit, oui, bon, voilà, c'est les étoiles, on est habitué, hein, depuis qu'on est né, on lève le ciel, on lève les yeux au ciel, on voit les étoiles. Ou alors soit on dit, mais waouh, mais quel spectacle magnifique! Magnifique, par un beau ciel, un beau clair de lune, de pouvoir contempler les étoiles, même la carte du ciel, pour ceux qui savent exactement repérer la grande ours. Et il y en a qui sont experts pour identifier les étoiles dans le ciel. Et le roi David, il aurait certainement été dans la deuxième catégorie. Il se serait émerveillé en voyant le ciel. Il a écrit des psaumes et il y a des psaumes où il s'émerveille justement de la création. Et on va se pencher sur le psaume 8 aujourd'hui. Je vous invite à le prendre, le psaume 8. Il n'est pas très long, il y a 8 ou 10 versets, ça dépend vos versions. Et j'ai intitulé ce message « Dieu des fourmis, Dieu des étoiles ». Le même Dieu, Dieu des fourmis, Dieu des étoiles. Je vais lire le psaume 8. Au chef des chantres, sur la guittite, psaume de David. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires, pour imposer silence à l'ennemi et aux vindicatifs. Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds, les brebis comme les bœufs et les animaux des champs, les oiseaux du ciel et les poissons de la terre, tout ce qui parcourt les sentiers des mers. Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Amen. Jusqu'ici la parole de Dieu, je vais prier. Seigneur, nous voulons nous émerveiller, Seigneur, à la manière d'un enfant, oui, pour tout ce que tu as fait, Seigneur, et lever les yeux vers toi, Seigneur, toi le Créateur, de ce qui nous émerveille, Seigneur, et nous voulons être émerveillés par ta personne, Seigneur. Merci de nous conduire, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Le psaume 8, au psaume précédent, au psaume 7, il est différent. Je vous invite à le lire à la maison. Dans le psaume qui précède, David cherchait refuge. Cherchait refuge pour se protéger contre ses ennemis, cherchait refuge en Dieu pour se protéger contre ses ennemis. Et ici, au psaume 8, le contraste. Plus d'inquiétude. Pas d'angoisse. On va dire aujourd'hui pas de Covid. Vous savez, ce qui angoisse un peu les esprits, hein, ce qui angoisse beaucoup les esprits aujourd'hui. Pas de soucis au quotidien. Qu'est-ce qu'on va manger demain? De quoi allons-nous nous vêtir? Il n'y a même pas de supplication dans ce psaume. Il n'y a pas de demande adressée à Dieu. Mais de la louange, rien que de la louange, seulement de la louange et de l'adoration du début jusqu'à la fin. David s'émerveille en Dieu. Et David, il commence et il finit son psaume par cette même phrase, versets 1 et 9. Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. David s'émerveille en Dieu, de la personne de Dieu. Alors c'est un psaume qui est destiné à être chanté, qui s'adresse au chef des chantres, et pas étonnant puisque c'est de la louange, c'est de l'adoration. Il s'adresse au chef des chantres et ce psaume a souvent été mis en musique. Aussi pour des versets chantés pour les enfants. Et ce psaume commence par « Éternel, notre Seigneur, notre Seigneur ». Donc c'est tout le psaume, c'est une prière. C'est une prière qui peut tout aussi bien être collective, « Éternel, notre Seigneur ». Et c'est aussi une prière qu'on peut s'approprier personnellement, qu'on peut faire sienne personnellement. Et qu'on peut faire en tout temps, bon ou mauvais, parce que Dieu ne change pas. Alors, ici, David choisit, c'est un choix, il choisit de concentrer toutes ses pensées vers la personne et vers l'œuvre de Dieu. Et c'est un choix. Qu'il fasse bon, qu'il fasse mauvais, qu'il fasse beau, c'est un choix. David choisit de se concentrer sur l'œuvre de Dieu. Loin des soucis bien humains. Hier, j'avais du mal à dormir. J'avais vraiment du mal à trouver le sommeil. Brigitte, on a prié pour que Dieu nous aide à trouver le sommeil, tellement on était agité, on avait visité des maisons. Et vraiment, notre seul secours, c'était de nous tourner vers Dieu pour trouver la paix, et on l'a fini par le trouver. Je m'inquiétais de pas être en forme ce matin, mais alléluia, ça va. Et David donc se concentre sur la personne de Dieu. Et les psaumes de David, le psaume 7, il fait vraiment contraste avec le psaume 8. Les psaumes, ça reflète vraiment la vraie vie telle que nous la vivons, sans se voiler la face. La vie est dure sur cette terre. Et les psaumes de David, on se retrouve dans le vécu de David, et pas seulement, dans tous les psaumes en général. Les psaumes, on peut dire, nous invitent à être réalistes, ce que nous vivons sur terre, tout en portant nos regards vers le ciel. Être réaliste, on dit souvent avoir les pieds sur terre et la tête dans le ciel. Et les psaumes nous invitent à ça, à chercher la gloire de Dieu. Alors peut-être quelqu'un dira, mais moi, Dieu, je l'ai jamais vu. Moi non plus. On peut pas voir Dieu, mais on peut voir ses œuvres. Et ses œuvres témoignent de qui il est, de sa personne. Et la vérité que j'ai ressortie de ce psaume, qui m'est apparue, c'est que Dieu a créé le monde pour l'homme, et il a créé l'homme pour lui. Gardons cette vérité à l'esprit qui ressort de ce psaume. Dieu a créé le monde pour l'homme, pour nous, et il nous a créés pour lui. Gardons cette perspective à l'esprit dans tout le reste, et c'est ce que je vous invite à voir en trois points. Donc là, premièrement, nous allons nous attacher sur la création. La création qui témoigne à l'homme de son créateur. Deuxièmement, nous verrons l'homme plus particulièrement. Nous verrons l'homme, sa grandeur, et aussi sa décadence. Et troisièmement, nous verrons Dieu, le Créateur. Créateur si grand, devenu homme, si petit dans sa création. Donc premièrement la création, deuxièmement l'homme, troisièmement le Créateur. Voyons premièrement la création qui nous témoigne de son Créateur, qui témoigne à l'homme de son Créateur. La création que nous pouvons voir avec nos yeux, elle est bien visible. Sur terre et dans le ciel, elle témoigne de son Créateur. Il y a un Créateur. Nous ne sommes pas le fruit du hasard, ni tout ce que nous voyons. Et vous vous rappelez le premier verset de la Bible, Genèse chapitre 1, verset 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Personne n'était là pour voir. Donc ce premier verset nous invite à croire à ce premier verset et à tout ce qu'il y a de marqué dans la Bible. Et ce psaume 8, eh bien, il nous invite à louer Dieu. Et pour cela, eh bien, David, qui a écrit ce psaume, eh bien, il nous invite à contempler la création, afin de le louer. Et à y réfléchir, arrêtons-nous un peu. Tout va tellement vite aujourd'hui, hein, on est tellement à vide de vitesse avec nos smartphones. Et vous êtes dans une belle région. Là, quand on vient de Toulouse, et qui plus est, on vient de la région parisienne. On a vraiment apprécié la région ici, Occitanie. Et arrêtons-nous et posons-nous la question, eh bien, qui a créé ces choses, aussi bien sur terre que dans le ciel? Il s'agit de contempler. David était un contemplateur. Au verset 3, il dit « Quand je contemple les cieux », et il nous invite, nous aussi, à lever les yeux et à y réfléchir. Qui a créé ces choses? Et pourquoi les a-t-il créées? Pourquoi? Pourquoi le ciel? Pourquoi les étoiles? Pourquoi la nature si belle? Pourquoi la végétation? Pourquoi les animaux? Et pourquoi l'homme? Le ciel est infini. Et rien que d'y penser, j'ai vu quelqu'un de ma famille avoir le vertige. Quelqu'un qui n'est pas croyant. Elle s'est littéralement sentie mal. Elle a eu le vertige. Quelqu'un qui se dit athée, hein, elle s'en cache pas. Mais elle s'est sentie mal à l'idée que le ciel est infini. À la perspective que ça ne s'arrête jamais. Et effectivement, le ciel ne s'arrête jamais. Il n'a pas de fin. Pourquoi? Parce que le ciel renvoie à son Créateur. Le ciel est infini, Dieu est éternel. Le ciel infini, nous qui sommes finis, on a du mal à imaginer, il y a encore et encore et encore un après. Et effectivement, de quoi mettre mal à l'aise un athée. Parce que le ciel renvoie à son Créateur. Et un autre psaume, le psaume 19, verset 1, nous dit « Les cieux Psaume 19, verset 1, « Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. » Les cieux racontent la gloire de Dieu. Quand on regarde le ciel, il nous raconte la gloire de Dieu. C'est un livre ouvert, le ciel. Voilà de quoi mettre mal à l'aise un athée, mais de quoi tellement nous réjouir, de quoi nous rendre adorateurs du Créateur, nous qui croyons. Et le ciel, eh bien, où est Dieu dans le ciel? Il est encore plus haut que les cieux. Le premier verset nous dit sa majesté, la majesté de Dieu s'élève au-dessus des cieux. Dieu est encore plus haut que le ciel infini. Parce que Dieu est au-dessus de sa création. Il est au-dessus du monde qu'il a créé et dont nous faisons partie. Voilà déjà une bonne raison, ce qui pousse David à louer Dieu qui se trouve dans le ciel. Mais ce qui pousse David à louer Dieu ne se trouve pas seulement dans le ciel, c'est aussi ici-bas, sur terre, sur toute la terre, tout près de nous. Et notre psaume, eh bien, voilà, il fait référence à la terre, et il commence et il finit par cette même phrase, verset 1 et verset 9, « Éternel, c'est une louange, éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre, ta majesté s'élève au-dessus des cieux, la terre et le ciel. » Déjà ici-bas, on peut pas échapper à réfléchir qui a créé ces choses. Et quand on lève les yeux vers le ciel, là non plus, on peut pas échapper qui a créé ces choses. Tout raconte la gloire de Dieu dans la création. Alors, où se trouve le nom de Dieu? Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Où se trouve son nom? Et David savait que ce n'était pas seulement en Israël qu'on trouve le nom de Dieu. Dieu s'est révélé à Israël. Mais c'est sur toute la terre. Qu'on soit croyant ou pas, le nom de Dieu se trouve dans sa création. Parce que la création de Dieu, c'est sa signature qu'il a laissée aux hommes, qu'il nous a laissée. Quand tu vois une fourmi, tu peux y lire « Signé Dieu » qu'il a fait. Quand tu regardes un éléphant, tu peux y lire « Signé Dieu » qu'il a fait. Quand tu regardes une rose, tu peux y lire « Signé Dieu ». Quand tu regardes les Pyrénées, tu peux y lire « Signé Dieu. » Et David, quand il regarde à la personne de Dieu et à sa création, il s'écrit « Magnifique, magnifique. » Et « magnifique », c'est tout le contraire de ce qui est banal, de tout ce qui est triste. On est tellement habitué à des paysages, mais quand on s'arrête, on réfléchit au Créateur, voilà de quoi changer de perspective, d'attitude. Parce qu'un même spectacle de la nature peut paraître banal à un incroyant qui passe devant. Un même spectacle peut paraître banal à un incroyant et magnifique au croyant, quand il considère que cela a été créé par Dieu. Et ça, c'est le regard de la foi que Dieu nous invite à avoir. Et c'est vrai que ça change tout. Quand on prend les lunettes, qu'on regarde un chat ou une fourmi avec les lunettes, on peut dire divines, ça change tout sur ce qu'on regarde. Parce que c'est Dieu qui l'a créé. C'est le regard de la foi. Comme si avoir la foi, c'est mettre les lunettes divines finalement, qui ne vient pas de l'imaginaire, mais de l'illumination d'un cœur qui a été éclairé par Dieu. Avant, mon papa regardait beaucoup les émissions, les reportages sur les animaux. Je me disais, mais qu'est-ce qui perd son temps à regarder ça? C'est tellement plus important de regarder les actualités. Et aujourd'hui, je vois les choses différemment, parce que je m'attarde un peu plus sur ce que Dieu a créé. Et les enfants, oui les enfants, ils ont ce regard d'émerveillement devant la création. Consciemment ou inconsciemment, les enfants, ils louent Dieu quand ils s'émerveillent devant une simple fourmi. Je sais pas si vous avez, voilà, vous qui êtes parents, ou vous qui avez, même si vous avez des grands enfants, une petite fourmi. J'ai vu des enfants s'émerveiller devant une petite fourmi qui se promène sur leurs mains. Ils louent Dieu aussi devant un énorme éléphant. Et ils prennent le temps d'observer ce que nous, parfois, nous ne prenons pas. Nous sommes si pressés de nos jours. Et le verset 2 nous le confirme, le verset 2 du psaume nous dit « Par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, donc des nourrissons, par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé ta gloire. » Les enfants ont ce regard sur la création de Dieu qui renvoie à son Créateur. Et Jésus, Il y a une pensée similaire. Il a dit ceci en Matthieu chapitre 11, verset 25. Il a dit, « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et de ce que tu les as révélées aux enfants. » Alors, savons-nous, nous aussi, nous émerveiller à la manière d'un enfant devant la création? Savons-nous nous arrêter? Est-ce que vous seriez étonné de voir des merles se poser sur une terrasse, marcher, aller jusqu'à des croquettes de chat, des grosses croquettes, hein, les prendre sur leur bec et s'en aller? Alors nous, on l'a vu chez nous. On était, du temps où nos chats étaient encore vivantes, on avait des croquettes de chat, un bol de croquettes. Et les oiseaux ont commencé à s'approcher, les merles. Et c'est devenu vraiment leur quotidien. Et les chats, même pas peur, hein. Et c'est vrai que c'était vraiment un mets de premier choix pour ces merles. Et puis, ils s'approchaient d'assez près pour ça. On a aussi été étonnés chez nous, dans notre petite maison d'Escalquins. Le soir, la nuit, à la tombée de la nuit, on entendait un bruit bizarre. Effectivement, le bol d'eau des chats était renversé, il était sur la terrasse. Et puis aussi le bol des croquettes, on s'est demandé c'est quoi. Et on a soulevé le store. Et qu'est-ce qu'on a vu? On l'a pris sur le vif. Un hérisson qui était venu boire dans le bol d'eau et se servir aussi dans le bol de croquettes des chats. Et quand on n'a pas vu un hérisson, on n'avait pas l'habitude d'en voir beaucoup en région parisienne, on s'est arrêté. Il faisait nuit, regarde comme on l'a pas touché. Mais on s'est quand même arrêté suffisamment près et on l'a observé. On était curieux, on était émerveillés. Et puis, quel spectacle, en voyant encore sur notre terrasse, deux colonnes de fourmis, à peu près de 2,50 mètres, qui allaient en sens inverse l'une de l'autre, en parallèle. Une colonne qui allait toujours jusqu'à ce même bol de croquettes, et l'autre colonne de fourmis qui allait vers leur terrier, vers leur fourmilière, pour ramener la nourriture. Très organisée, les deux colonnes de fourmis, on les regardait. Alors, ça vaut la peine de s'arrêter. Et quel spectacle, oui, effectivement. Alors après, on s'est dit, il y a beaucoup de fourmis, et on l'a regretté. On a pris du produit anti-fourmis. Et quand on a fait ça, on était triste de l'avoir fait. On a réfléchi après, parce que il y avait beaucoup de fourmis, et les fourmis, c'est utile. Alors oui, les enfants savent s'émerveiller devant la nature, et devant aussi, en particulier, les animaux. En particulier. Et on peut se poser la question. Et je vous laisse avec la question. Enfin, je vous demande pas d'y répondre, mais on peut se poser la question. Est-ce que Dieu aurait créé les animaux pour les enfants? Quand on voit les enfants s'émerveiller devant les animaux, devant un chat, devant un chien, est-ce que Dieu aurait créé la variété de tant d'animaux pour les enfants? Pour témoigner de sa personne, de qui il est. Et c'est tellement mieux pour un enfant de jouer avec un vrai animal qu'avec une peluche. Quelqu'un d'autre de ma famille qui ne confesse pas Christ. Elle ne se dit pas athée, mais je ne l'ai jamais entendu confesser Christ. Elle aime beaucoup les animaux. Et vraiment, quelqu'un qui fait du mal à un animal, ça l'attriste. Et elle a dit ceci. Si les animaux sont là, c'est qu'il y a une raison. Elle ne se dit pas croyante. Et pourtant, en disant cela, inconsciemment, elle pointait vers celui qui les a créés, vers celui qui a une intention en les créant. Il y a une raison, un but à tout cela. Et effectivement, c'est auprès de Dieu qu'on peut trouver qu'on trouve la raison. Sans le savoir, eh bien, ma sœur, il s'agit de ma sœur, elle pointait vers le Créateur qui les avait créés. La création tout entière pointe vers Dieu et elle est là pour nous témoigner de sa bonté. De sa puissance aussi, parce que l'homme est incapable de créer une fourmi et ni un éléphant. Et de son amour pour nous. Dans quel but? Pour que nous lui rendions grâce et que nous le louions. Et comment rendons-nous grâce à Dieu? Comment adorons-nous Dieu? Avec notre bouche. Ce que n'ont pas les animaux. C'est ce qui nous différencie des animaux. De voir le spectacle magnifique de la création nous invite à louer Dieu avec notre bouche. Mais un athée ne verra pas forcément la signature de Dieu dans un magnifique coucher de soleil, ou un éléphant, ou une fourmi, ou en regardant le ciel étoilé. Et il se demande encore où est Dieu. Il y avait un cosmonaute, il y a longtemps, qui était allé sur la Lune, qui était en orbite, qui l'a dit qu'il n'avait pas rencontré Dieu sur la Lune. Où le trouver? Peut-être sur la planète Mars. Peut-être vous suivez là ces images de ce robot qui est sur la planète Mars en ce moment, cette mission qui a coûté très très cher. Et l'homme qui envisage avec ses milliards, peut-être un jour d'aller coloniser Mars. Pour l'instant, on n'y voit que des cailloux. Bien sûr que c'est un exploit d'aller toujours plus loin. Mais la planète Mars, elle fait aussi partie de la création. Donc, regardez toujours plus loin. Mais l'homme, en fait, il oublie de regarder beaucoup plus près. Beaucoup plus près de lui. Et il oublie de se regarder lui-même comme étant une merveille de la création. Alors voyons maintenant juste le deuxième point, l'homme, voyons sa grandeur et aussi sa décadence. Après avoir créé les animaux, donc le sixième jour, Dieu a terminé sa création par son chef-d'œuvre. Son chef-d'œuvre, eh bien, c'est vous, c'est moi, c'est l'homme et la femme. L'homme et la femme qu'il bénit en Genèse 1, versets 27 et 28, il a béni sa création. Et David, eh bien, au psaume 139, il a aussi écrit, psaume 139, verset 14, « Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. » David se reconnaissait créé par Dieu. Et sa simple personne, il était honnête, il se reconnaissait merveilleux. Second, ce n'était pas de l'orgueil, il se reconnaît parce qu'il se reconnaissait créé par Dieu. Alors pourquoi aller chercher dans des paysages magnifiques alors que nous sommes magnifiques? Et quand vous vous regardez vous-même, vous pouvez lire, signez Dieu qui vous a fait. Signez Dieu qui vous a fait. Et pourquoi nous a-t-il créé? Eh bien, on trouve la réponse en Colossiens, chapitre 1, verset 16. Je vais le citer. Tout a été créé par lui et pour lui. Dieu nous a créé pour son plaisir, pour lui. Tout a été créé par lui et pour lui. Alors, si vous vous demandez pourquoi vous existez, ou si vous avez entendu quelqu'un vous demander « Pourquoi je suis là? Pourquoi je suis sur terre ?» Eh bien, voilà la réponse. Vous existez parce que Dieu vous a voulu. Vous existez par la volonté de Dieu qui vous a créé, qui nous a créé pour lui. Et peut-être que ça vous étonne, parce que vous vous sentez bien petit par rapport à Dieu, et pour cause, par rapport à un tel créateur. David a eu le souffle coupé lorsqu'il contemple le ciel et les étoiles, parce qu'ils lui font penser à Dieu. Et juste, levons nos têtes et essayons de voir un peu le ciel. La lumière, elle parcourt 9500 milliards de kilomètres en une année. La lumière parcourt 9500 milliards de kilomètres en une année. Et à des milliards d'années-lumière, et des milliards d'étoiles sont à des milliards d'années-lumière de la Terre. Vous avez une année-lumière, c'est ce que met la lumière pour le temps qu'elle met la lumière pour parcourir 9500 milliards de kilomètres en une année. Eh bien, il y a des milliards d'étoiles qui sont à des milliards d'années-lumière de la Terre. Est-ce que ça vous étonne? David était étonné. La Terre, elle est un grain de poussière dans l'univers. Alors, si la Terre est un grain de poussière dans l'univers, qu'est-ce que nous sommes? Nous qui sommes tirés de la Terre. Il y a vraiment de quoi se sentir petit, n'est-ce pas? Et pourtant, ce qu'il y a de magnifique, et ce que David avait compris, c'est que Dieu, le seul Dieu qui est au-dessus des étoiles, qui est aussi le Dieu des fourmis, eh bien, il a tellement pris soin de nous. Il prend soin de l'homme. Et David, il l'avait compris quand je relis le psaume 8, versets 3 et 4. « Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Et le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? » Nous qui sommes si petits. Je rajoute, nous qui sommes si petits. Eh bien oui, l'homme, bien que grain de poussière, nous sommes fragiles, nous sommes mortels, eh bien nous sommes dans la pensée de Dieu. Infiniment grand, nous sommes dans sa pensée. Dieu ne nous oublie pas. Dieu pense à chacun d'entre nous. Peut-être que vous vous sentez inquiet face à l'avenir avec où va le monde, avec cette pandémie et la crise économique et toutes ces valeurs morales qui déclinent. Un avenir aussi économique très incertain. Et on peut se demander où est Dieu. Mais Dieu ne vous oublie pas. Dieu ne nous oublie pas. Et qu'est-ce qu'il veut? Bien sûr, et d'autant plus avec ces temps que nous vivons, il invite tout homme à se tourner vers lui. Pourquoi? Effectivement, cette crise a fait s'interroger des personnes. Pourquoi cette crise? Et c'est ce que Dieu veut, n'est-ce pas? Dieu ne nous oublie pas et il invite chacun à se tourner vers lui. Et il désire prendre soin de nous. Même si nous nous sentons petits, même si nous sommes tout petits, Dieu veut prendre soin de nous parce que nous avons été créés à son image. Nous avons été créés par lui parce qu'il nous aime et nous avons été créés pour lui. Et en témoigne le reste de sa création. Le reste de sa création témoigne de cet amour qu'il nous porte. Pourquoi Dieu a-t-il créé la végétation? Pourquoi Dieu a-t-il créé les animaux? Pourquoi a-t-il créé les étoiles, les poissons, les oiseaux, les poissons de la mer, les fourmis? Nous avons la réponse dans ce psaume. C'est pour nous. C'est pour l'homme. Pour l'homme et la femme. C'est un magnifique cadeau que Dieu a voulu nous faire. Le jardin où Dieu avait placé Adam et Ève, eh bien, il s'appelait le jardin d'Éden. Et Éden veut dire délice, jardin des délices. C'est pour nous que Dieu a créé ces choses. C'est un cadeau qu'il a voulu nous faire. Alors oui, Dieu, il a créé l'homme pour lui, il nous a créé pour lui, et il a créé tout le reste pour nous. Toute la création, le végétal, l'animal, a été créée pour nous. Et on a besoin de se le rappeler. On en parle beaucoup d'écologie en ce moment. Il a créé le monde pour l'homme et il nous a fait l'honneur, quel honneur à nous qui sommes si petits, de nous confier le reste de sa création. Nous sommes les gérants de sa création. Il nous a fait cet honneur, c'est ce que dit ce psaume, c'est ce que ressort de ce psaume. Nous sommes les gérants de sa création. Cette création si grande, il nous l'a confiée et il nous place au-dessus d'elle. Nous sommes au-dessus de la création, nous sommes l'aboutissement de sa création et en même temps nous sommes au-dessus de sa création. Pourquoi? Pour nous donner gloire et magnificence. Regardez le verset 5. En parlant de l'homme, David dit ceci. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Il s'agit de nous là. Et le verset 6. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds. Quel honneur Dieu nous fait. Juste en dessous de lui, et au-dessus de tout le reste de sa création. Alors oui, on peut dire, l'homme représente Dieu devant la création. L'homme représente la création devant Dieu. Puisque nous sommes les gérants de sa création, nous représentons la création devant Dieu. Nous en sommes responsables et à qui nous devons rendre compte. Et aussi, l'homme représente Dieu devant la création. Nous avons été créés à l'image de Dieu et nous représentons Dieu devant la création. Et nous avons reçu le mandat d'en prendre soin. C'est un mandat, le mandat d'en prendre soin. On représente la création devant Dieu et on représente Dieu devant la création. Et la création, gérée avec Dieu, n'est-ce pas, ça aurait pu être une histoire merveilleuse pour l'homme. Sauf que ça s'est pas passé comme ça. L'homme a oublié qu'il n'est pas le propriétaire de la création, de Dieu. Ça me fait penser à la forêt d'Amazonie qui est en train d'être rasée pour toujours avoir des terres cultivables, alors que c'est le poumon de la planète. Toujours, toujours, toujours plus, produire plus. L'homme a oublié qu'il n'est pas le propriétaire de la création, il est juste le gérant. Et l'homme, eh bien, il a voulu se passer du Créateur, il a voulu se passer de Dieu. Pourquoi? Parce que ça ne lui suffisait pas d'être juste au-dessus de la création et juste en dessous de Dieu. Ça ne lui suffisait pas. Il était au-dessus de toute la création et en dessous de Dieu. Non, l'homme a voulu se faire Dieu. Et là, c'est de là que viennent tous nos problèmes. C'est l'essence même du péché de vouloir se faire Dieu. Depuis Adam et Ève qui ont cru aux mensonges de Satan plutôt que de croire à Dieu. Et je me souviens que mon père, quand j'étais enfant, et cette parole m'est restée. Mon père m'avait dit une fois, rappelle-toi qu'il y a toujours quelqu'un au-dessus de toi. Et ça m'est resté. Il y a toujours quelqu'un au-dessus de nous. Le péché a tout gâché. Et le péché a renversé l'ordre établi par Dieu. L'homme qui est censé dominer sur la création, maintenant il peut se faire aboyer par un chien dans la rue. Il peut se faire aboyer dessus par un chien, il peut changer de chemin. L'ordre a été renversé. Impossible de couronner de gloire et d'honneur l'homme dans son état de pécheur corrompu. Et d'où vient cette catastrophe écologique qui frappe notre planète, encore plus visible aujourd'hui? On peut même parler de désordre. D'où vient le désordre? La confusion. Eh bien, de vouloir gérer la création de Dieu sans Dieu. De vouloir gérer la création de Dieu sans Dieu. Tout le problème vient de là. Et ça vaut la peine, on va pas se détailler là, mais ça vaut la peine de réfléchir à comment Dieu a procédé pour créer le monde. Il aurait pu créer le monde d'un claquant de doigts, on peut dire. Tout d'un seul coup, tout apparaît d'un seul coup. Il en avait le pouvoir, mais il n'a pas fait comme ça. Dieu a créé le monde en 6 jours, plutôt qu'un seul. Et ça montre quoi? Ça montre qu'il est un Dieu d'ordre. Il y a un temps pour tout. C'est aussi pour nous laisser un modèle. Il a créé le monde de façon distincte et méthodique. Et par séparation, il a séparé la lumière des ténèbres. Il a séparé la terre de la mer. Et il a créé le monde selon un ordre précis et chronologique. Et il a créé les animaux selon leur espèce. Pas de mélange, pas de confusion. Aussi bien les animaux que les végétaux, selon leur espèce. Et on peut tirer la conclusion que Dieu est un Dieu d'ordre. Il a procédé ainsi pour nous laisser un modèle. Pour nous laisser un modèle de... Cet ordre de la création contient une perspective morale de ne pas tout mélanger. Sinon, au risque d'y avoir confusion. Confusion entre le bien et le mal. Confusion entre l'homme et la femme. Confusion, pire, confusion entre l'homme et l'animal. Pourquoi? Parce qu'on enlèverait Dieu, le créateur de l'équation. Et la tendance, elle est comme ça. Ce projet de loi bioéthique qui vise à élargir les recherches sur les expériences sur les chimères, homme-animal. Confusion. On peut vraiment prier pour nos autorités. Et effectivement, on voit bien la confusion qui règne sur notre planète aujourd'hui. Et moralement, eh bien, l'essence même du péché, c'est vouloir être comme Dieu. Et à vouloir être comme Dieu, l'homme est parfois descendu plus bas que l'animal. Quand on regarde l'histoire de l'humanité, de quoi est capable l'homme? À vouloir se faire Dieu. L'embryon humain n'est pas un objet de laboratoire. Nous sommes précieux aux yeux de Dieu. Alors, en ne se soumettant pas à Dieu, l'homme a acquis son indépendance, ça oui, mais à quel prix? Eh bien, non seulement au prix de sa vie, la mort est entrée dans le monde de par sa désobéissance, mais non seulement au prix de sa vie, mais en étant le responsable de toute la création auquel Dieu l'a nommé responsable, eh bien, il a entraîné dans sa chute toute la création avec lui. Il a entraîné non seulement sa propre mort au prix de sa vie, mais il a entraîné avec lui la chute de toute la création. Et c'est bien normal, puisque Dieu l'avait établi comme responsable au-dessus de la création. Le sol a été maudit et notre planète est bien malade. Réchauffement climatique, c'est pas non plus une vue de l'esprit, c'est un constat, c'est un fait qui vient du mépris de la Terre. Extinction des espèces. Beaucoup d'espèces disparaissent les unes après les autres à un rythme très rapide. Ce qui ne fait que confirmer que l'homme a échoué dans son mandat de prendre soin de la création. Est-ce qu'il y a encore de l'espoir? Est-ce que Dieu s'intéresse encore à sa création? Si l'homme a oublié Dieu, Dieu lui n'a pas oublié l'homme. Le verset 4, alors je vais le relire avec une autre traduction, le verset 4 du psaume 8. Qu'est-ce que l'homme, le fils de l'homme? Alors, première traduction pour que tu te souviennes de lui, autre traduction pour que tu le visites. On peut aussi traduire comme ça. Qu'est-ce que le fils de l'homme pour que tu le visites? Eh bien, Dieu nous a visités, n'est-ce pas? Et je me souviens de cette illustration de l'évangéliste Billy Graham. Et supposons que vous vouliez communiquer avec des fourmis. On a une taille bien plus grande que celle des fourmis. Vous voulez communiquer avec des fourmis. Comment est-ce que vous allez vous y prendre? Eh bien, en vous faisant aussi petit qu'une fourmi. Et en vous faisant vous-même une fourmi. Eh bien, Dieu si grand nous a visités et nous a parlé à nous si petits. Et comment l'a-t-il fait? Eh bien, d'une manière extraordinaire. Un Dieu si grand. Il s'est fait à la taille d'un homme. Voyons mon troisième point. Le Créateur, si grand, devenu si petit en taille dans sa création. Relisons le verset 2 du psaume 8. Par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé ta gloire pour confondre des adversaires, pour imposer silence à l'ennemi et aux vindicatifs. Eh bien, Dieu s'est appliqué cette parole à lui-même, en devenant aussi petit qu'un homme, se faisant lui-même petit bébé, nourrisson. Il a respecté les étapes de la croissance. Il n'est pas devenu homme adulte d'un seul coup. Il s'est fait aussi petit. Et il s'est fait lui-même petit bébé. Pourquoi? Pour fonder sa gloire. Gloire qu'on peut aussi traduire par force. Il fonde sa gloire en s'étant fait lui-même petit bébé. Alors, l'homme, il veut plutôt montrer sa force par ses muscles. Ou un pays veut montrer sa force par sa grande armée, en montrant qu'il est plus fort. C'est pas comme ça que Dieu a fait. Et sans le savoir, eh bien, David avait prophétisé la venue du Messie, qui viendrait sous la forme d'un bébé. Et voilà de quoi nous étonner. Je relis l'évangile de Luc, chapitre 2, verset 11. « C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. » Peut-être il s'attendait à un autre signe, grandiose. Mais là, c'était un petit bébé, dans une crèche. Et ce qui a suscité l'admiration chez David, eh bien, a aussi suscité l'admiration chez l'apôtre Paul. Je vais citer 1 Corinthiens chapitre 1 verset 27. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Voilà comment Dieu s'y prend. Et voilà la réponse au péché de l'homme. Voilà la réponse de Dieu au péché de l'homme. Puisque l'homme a voulu se faire Dieu, ça c'est l'essence même du péché, eh bien Dieu a voulu se faire homme. Et Dieu s'est fait homme en Jésus-Christ. Et puisque l'homme a voulu prendre la place de Dieu, eh bien Dieu a pris la place de l'homme. Comment? Quand il est mort sur la croix pour nos fautes, quand il a pris à la croix la punition qui nous revenait à tous. Pourquoi? Pour rendre possible notre pardon, pour qu'on puisse être réconcilié avec lui et aller à lui et retourner à lui, notre Créateur. Alors voilà de quoi fermer la bouche à l'ennemi et au vindicatif, pour reprendre les termes du psaume. Le vindicatif, c'est celui qui n'aspire qu'à se venger. Êtes-vous étonné de cela? Et savons-nous encore nous étonner en entendant l'évangile de Jésus-Christ? Il y a de quoi. Vous savez, le meilleur commentaire de la Bible, il y a des excellents commentaires, hein, mais le meilleur commentaire de la Bible, c'est encore la Bible elle-même. La Bible, le livre qui parle le mieux de la Bible, c'est la Bible elle-même. Et je vais citer, alors les versets 4 à 6 du psaume 8 sont cités dans le Nouveau Testament, dans l'Épître aux Hébreux, et s'appliquent à Jésus. Et je vais les lire. Hébreux, chapitre 2, versets 6 à 9. Je vais les lire. Hébreux 2, 6 à 9. Et gardez un doigt sur le psaume 8. Or, quelqu'un a rendu quelque part ce témoignage. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Ou le fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui? Tu l'as abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges. Tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Tu as mis toutes choses sous ses pieds. En effet, en lui soumettant toutes choses, Dieu n'a rien laissé qui ne lui fût soumis. Cependant, nous ne voyons pas encore maintenant que toutes choses lui sont soumises. Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte, afin que par la grâce de Dieu, il souffrit la mort pour tous. Là, l'Épître aux Hébreux s'applique à Jésus. Le psaume 8 s'adresse à l'homme en général. Et là, le psaume 8, il s'applique à Jésus. Parce que Jésus, le Fils de Dieu, devenu Fils de l'homme, accepté de se mettre pour un temps inférieur aux anges, eh bien nous pouvons retrouver ce qu'Adam avait perdu, c'est-à-dire notre juste place en dessous de Dieu et au-dessus de la création. Grâce à Jésus, nous pouvons retrouver ce qu'Adam avait perdu. Et plus que cela, Dieu a couronné de gloire et d'honneur son propre Fils Jésus de par sa mort et sa résurrection pour nous, pour nous faire partager sa gloire et son honneur. Voilà, ça redevient possible. Ça redevient possible. Alors le péché veut nous rendre égal à Dieu sans Dieu. Ça, c'est l'essence du péché. Le péché veut nous rendre égal à Dieu sans Dieu. Eh bien, Dieu lui nous propose de nous faire partager la gloire de son Fils avec lui. Qu'est-ce que demander de plus ? Dieu nous propose de nous faire partager la gloire de son Fils avec lui. Dieu a donné à son Fils le nom au-dessus de tous les autres noms. Je vais citer Philippiens 2, 9 à 11. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Alors une chose est sûre, c'est que le monde entier sera un jour sous les pieds de Jésus, oui. Dans le sens que tout reprendra sa place normale. Tout reprendra sa place normale. Et en attendant, eh bien, tous ceux qui ne l'ont pas encore fait peuvent volontairement, sans y être forcés, ils peuvent volontairement invoquer son nom à haute voix, le nom qui est au-dessus de tout nom. Pas comme une formule magique, mais avec un cœur sincère, dans la foi et la repentance, en repensant à ce que Jésus a fait pour nous à la croix. Et nous avons cette promesse en Romains 10, verset 13. « Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » Et puis pour nous, Église, puisqu'un Dieu si grand a pu penser à nous si petits et nous visiter, eh bien nous autres, n'oublions pas de prendre soin des petits, de ceux qui sont pas considérés dans notre société. Ça englobe aussi bien les enfants, ceux qui n'ont pas de famille, pensons à eux dans nos prières, ceux qui sont placés parfois dans des familles, des foyers d'accueil, peut-être même des hôtels, des enfants qui sont orphelins. Lorsque vous faites un don à une organisation caritative, vous pouvez signer au nom de Jésus comme témoignage que ce que vous le faites à la gloire de Dieu. Pour aider, effectivement, ces œuvres humanitaires qui travaillent à soulager des souffrances. Parmi aussi les personnes qui sont dans notre société parfois un peu mises de côté parce qu'on se dit, bon, elles ont fait leur temps, elles ont servi, il y a bien sûr les personnes âgées, qui sont parfois mises de côté dans notre société parce qu'elles ne sont plus productives comme avant. Pourtant, eh bien, les enfants, les personnes âgées, nous tous, nous avons de la valeur aux yeux de Dieu. Alors c'est avec une bonne raison que le psalmiste y conclut son psaume comme il a commencé, c'est-à-dire verset 9. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Oui, c'est avec une bonne raison, parce que la terre a été honorée par la présence du Rédempteur qui nous a visités. Et lorsque la communion avec notre Créateur est rétablie en Jésus-Christ et grâce à lui, eh bien tout sur la terre et dans le ciel devient nouveau. Nous avons un regard nouveau sur la création de Dieu. Et nous pouvons dire magnifique. De quoi s'émerveiller déjà maintenant. Je vais prier. Père éternel, oui, c'est vrai, tu nous as créés, Seigneur, et donne-nous ce regard, Seigneur, sur ta création qui témoigne de toi, Seigneur, à la fois pour en prendre soin, mais pour nous rappeler que tout vient de toi. Tu les as créés avec une intention, Seigneur, celle de nous faire un cadeau, Seigneur, et en même temps, tu nous demandes d'en prendre soin. Seigneur, nous te prions que, effectivement, nous rappelions, Seigneur, ton œuvre, et aussi bien, Seigneur, par les animaux, la végétation, et bien sûr par nous-mêmes, nos hommes et femmes, tels que tu nous as créés. Et Seigneur, que nous nous rappelions que nous sommes précieux à tes yeux, et que tu as voulu, Seigneur, tout réconcilier avec toi, le Créateur. Nous réconcilier, Seigneur. Nous te remettons Voilà, que nous nous remettons ce regard, Seigneur, que nous sachions nous arrêter dans notre course, que nous sachions admirer, Seigneur, ta création, et penser à toi, et te louer, et t'adorer, Seigneur. Pour que le monde le voie, Seigneur, tous ceux qui font fi de ce que tu as fait, Seigneur, eh bien, nous te demandons que nous soyons des poteaux indicateurs, Seigneur, qui les rappellent que c'est toi, Seigneur, qui étais avant toute chose, et que Seigneur, nous nous rappelions que tu nous aimes, Seigneur, et de tout ce que tu nous as donné pour que nous en prenions soin. Par Jésus-Christ, Amen.